En France, les menaces sur la liberté d'informer nous préoccupent.
L'autre soir, j'allume la télé comme un idiot. Pas de bol, c'était l'heure des infos.
À Vincent Bolloré, oui, je lui demanderai de rétablir le vrai journalisme.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Burns possède tous les médias. Il faut que je dénonce ça avant qu'il soit trop tard.
Ah, vous les aimez pas, les journalistes.
Welcome to the world of the media.
Chaque jour, les journalistes nous informent, décryptent l'actualité et détricotent le vrai du faux.
Mais en coulisses, la profession trébuche et se heurte à de nombreux défis.
Le journalisme est un métier passion. Que se cache-t-il derrière cette formule attrayante?
À l'heure des réseaux sociaux et des fake news, comment s'informer de manière fiable?
Que faire quand la loi ne suffit plus à protéger ceux qui garantissent notre liberté de penser?
Entre pression, menaces et intimidation, comment les journalistes bretons enquêtent-ils?
Les médias indépendants trouvent-ils leur place dans un milieu médiatique sous forte pression?
D'habitude, ce sont les journalistes qui posent des questions.
Cette fois, nous sommes allés interroger le système de l'intérieur.
En quête de sens, une série documentaire en 5 épisodes réalisée par les étudiantes et étudiants du Master de Journalisme de Sciences Po Rennes.
Un requin blanc à la plage de la Torche dans le Finistère, des punaises de lit qui envahissent les métros parisiens, un bébé tué dans un four par le Hamas, aujourd'hui il peut être parfois difficile de démêler le vrai du faux. L'info à l'épreuve du détecteur de mensonges, c'est l'épisode du jour consacré au fact-checking.
Bonjour et bienvenue dans Vrai ou Faux.
You are fake news.
Et franchement, ils font que des magouilles sur l'information. France Télévisions, c'est devenu n'importe quoi.
Ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence.
Faux, totalement faux.
J'ai envie de te dire menteur.
C'est à vérifier, les enfants.
Il faut cesser de mentir aux Français.
C'est une manipulation monumentale.
Les médias ne méritent plus la confiance. Ils sont engagés dans un combat qui est un combat idéologique.
Bienvenue dans la fabrique du mensonge.
Fake news, théorie du complot, vidéo virale, la désinformation a pris une ampleur inédite avec le développement des réseaux sociaux. Vérifier l'information semble aujourd'hui plus nécessaire que jamais. Cette pratique a un nom, le fact-checking. Laurent Bigot, directeur de l'école de journalisme de Tours, a publié le livre « Fake News vs Fact-Checking ». Il nous en dit plus sur ce procédé.
Le fact-checking, c'est un travail de vérification des faits. C'est un travail à la fois omniprésent dans les obligations de travail journalistique, mais qui s'exerce d'une manière un peu plus spécifique depuis le début des années 2000, où est apparu le fact-checking politique, c'est-à-dire un exercice spécifique de vérification des propos des personnalités politiques prononcées dans l'espace public, et qui s'est aussi exercé d'une façon particulière à partir de 2016, avec ce qu'on appelle une variante du fact-checking que l'on appelle le debunking, la démystification des rumeurs, qui concerne là cette fois-ci toutes les fausses informations qui circulent sur Internet et les réseaux sociaux, quel que soit le domaine. Et là, on n'est plus seulement dans la politique.
Et cette pratique n'est pas nouvelle.
La vérification, ça existe depuis toujours. Les premières occurrences de la terminologie fact-checking, c'est 1923, la création de la presse magazine aux États-Unis avec la création de Time. On veut prendre le temps de vérifier ce qu'on va publier. On vérifie vraiment tout, on refait les enquêtes à l'envers, etc. On le fait aussi pour se prémunir de toute attaque sur le plan juridique notamment. Et on se dit qu'on va proposer une presse magazine vraiment différente de ce qui se fait par ailleurs, parce qu'elle sera particulièrement fiable.
Cet exercice particulier de vérification des faits s'est exporté de l'autre côté de l'Atlantique.
En France, le fact-checking était mis en œuvre par des médias plutôt grand public, voilà, avec une forte audience, comme Libération, avec des Intox, puis avec Check News, comme Le Monde avec les décodeurs, comme France Info avec le vrai du faux, comme également aujourd'hui les vérificateurs à TF1 LCI et l'AFP. Et l'AFP qui est aujourd'hui le premier opérateur mondial en matière de fact-checking. Il est aussi le premier média partenaire de Facebook.
L'agence France Presse a justement lancé en 2017 sa cellule d'investigation numérique, AFP Factuel, chargée de vérifier les informations diffusées sur les réseaux sociaux. À la différence des dépêches, les articles de fact-checking sont destinés au grand public. nous avons rencontré Émilie Béraud, journaliste à l'AFP Factuel pour la cellule Afrique. Elle nous présente son quotidien de fact-checkeuse.
Alors la journée type, c'est d'abord beaucoup de veille le matin sur les plateformes, donc sur les réseaux sociaux, essentiellement Twitter, enfin X, Facebook, TikTok. Ça prend du temps de se constituer sa propre veille. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que j'ai élaboré des listes avec des usual suspects, donc des personnes qui diffusent très régulièrement de fausses informations. On sait qu'elles vont potentiellement partir de ces comptes.
Une fois qu'un message trompeur est identifié, un autre paramètre doit être pris en compte.
On essaye d'évaluer leur degré de viralité. Avec des outils, encore une fois, on va voir s'ils circulent sur plusieurs plateformes à la fois, s'ils circulent en nombre, s'ils sont très partagés et par qui. À partir du moment où ces critères sont réunis, on propose le sujet en conférence de rédaction. Et si tout le monde estime que ça vaut le coup de se lancer dans le sujet, on part dans l'investigation numérique, en fait.
En fonction de l'information à vérifier, différents acteurs et outils vont être mobilisés. Il peut s'agir d'outils techniques pour retrouver l'origine d'une image, ou encore d'experts pour avoir de la documentation.
Et la dernière étape, quand on a suffisamment de preuves qui nous permettent de déconstruire la fausse information et de remettre les faits au centre, on écrit un article, tout simplement, qui est un article vraiment de démonstration, qui est censé ne pas prendre parti, être vraiment très factuel.
L'impact du fact-checking sur le public est difficile à évaluer. Néanmoins, des effets positifs très concrets sont visibles.
On travaille en partenariat avec les plateformes, notamment Facebook. Quand on a identifié un message très viral sur les réseaux sociaux qui est faux, qu'on a ensuite écrit un article, on le signale à Facebook, en l'occurrence, qui va venir apposer un bandeau sur la publication concernée et indiquer que des médias indépendants ont vérifié cette information et qu'elle est fausse. En règle générale, ça permet de limiter un petit peu la viralité du message, que les personnes de bonne foi retirent la publication et que de nouvelles personnes ne le partagent pas.
Grâce à leur partenariat avec les plateformes comme Meta, l'AFP cherche à agir aux racines de la désinformation. C'est aussi le but d'une loi européenne votée récemment. Vincent Couronne, membre du European Fact-Checking Network, le réseau européen des fact-checkers, nous en dit plus.
Il y a là une loi européenne toute nouvelle qui s'appelle le DSA, qui est pour en anglais Digital Services Act, qui est la loi européenne sur les services numériques, qui a été adoptée par le Parlement européen et le Conseil l'année dernière, en octobre 2022. Elle oblige les plateformes numériques à modifier leurs algorithmes, les contrats qu'ils ont avec leurs clients, notamment sur la publicité, sur la collecte de données, etc. Désormais, ces plateformes sont obligées d'adapter leurs services pour qu'ils ne diffusent plus, ils ne favorisent plus la désinformation.
Le fact-checking se pratique également en interne, au sein des rédactions. Revenons maintenant en Bretagne. Chez Ouest France, et comme dans beaucoup de journaux de la PQR, il n'y a pas de service dédié au fact-checking. C'est le secrétaire de rédaction qui assure la vérification des faits. Nicolas Blandin, journaliste à Ouest France en charge de la page Science, nous explique.
Vérifier l'information, c'est le travail du confrère et de la consoeur qui écrivent le papier, évidemment. Ensuite, le travail du secrétaire de rédaction, c'est d'essayer de déceler aussi les incohérences qu'il peut y avoir dans un papier. Sachant qu'aussi, il y a peut-être une autre particularité à Ouest France, c'est qu'on travaille aussi avec des papiers de correspondants. C'est-à-dire dans les petites communes où il n'y a pas de rédaction. Ce ne sont pas des journalistes professionnels, ce sont ce qu'on appelle chez nous des correspondants locaux de presse, dont le rôle est de collecter l'information locale auprès d'associations, auprès d'élus, aussi auprès des habitants de ces communes quand il y a une actualité qui peut valoir la peine d'être publiée. Il peut y avoir des erreurs aussi dans ces papiers-là. On peut tous finalement se tromper un moment. Le secrétaire de rédaction, c'est le filet.
En plus du fact-checking interne, le journal aide les citoyens à déceler les informations fausses.
On a une rubrique dans le journal qui s'appelle « Ouest France vous répond ». On est aussi un peu à cheval entre l'explication du quotidien et aussi le fact-checking, puisqu'on a souvent des courriers qui nous demandent « est-ce que c'est vrai que quelque chose se passe comme ça ?» On a ce côté fact-checking à travers des journalistes qui vont répondre à des questions de lecteurs.
C'est suite à une erreur malencontreuse que Ouest France a fait évoluer ses pratiques.
Je pense que de manière générale, il y a eu une sorte de bascule au niveau d'un certain nombre de médias sérieux. C'est l'affaire du pont de Ligonnès.
Il était recherché depuis 2011, soupçonné d'avoir tué toute sa famille à Nantes. Xavier Dupont de Ligonnès a été interpellé à l'aéroport de Glasgow en Écosse.
L'homme arrêté hier en Écosse est-il Xavier Dupont de Ligonnès ?
D'après les enquêteurs écossais, effectivement, ses empreintes correspondent à celles de Xavier Dupont de Ligonnès.
À la une ce soir, le stupéfiant scénario de l'arrestation d'un homme dans le cadre de l'affaire Dupont de Ligonnès.
Cette affaire, elle a mis en relief que malgré toutes les précautions que l'on peut prendre, on peut par un jeu de billard se retrouver à donner une mauvaise information. On a joué en quelque sorte de malchance. L'information d'origine était uniquement celle fournie par les autorités écossaises. Après coup, ce qu'on a vu, c'est qu'ils ne vérifiaient pas autant de points qu'on vérifie par exemple en France, ce qui est bien sûr facteur d'erreur. Et puis, il y a eu un autre élément, c'est l'impossibilité de joindre le procureur de la République de Nantes, qui n'a donc pu infirmer cette information.
Même si Ouest France a eu l'information très tôt dans la journée, le journal a attendu avant de la publier.
Derrière, s'il m'en branle tout un tas de verrous à faire sauter avant. C'est-à-dire qu'à Ouest France, on doit avoir au moins deux sources minimum qui nous donnent la même version, avant de publier, surtout sur des sujets aussi sensibles. Et on avait aussi tout notre réseau de journalistes à Nantes, qui ont leurs sources policières, qui ont leurs sources judiciaires. Donc, eux, ils avaient leurs sources locales qui leur disaient « Oui, c'est sûr, il est arrêté. »
Que ce soit de l'info ou de la stocks, de la chair fraîche ou du botox.
Lorsque toutes les sources coïncident et qu'une dépêche AFP tombe, la rédaction décide de publier de manière affirmative que Xavier Dupont de Ligonnès avait été arrêté.
Une erreur, et à la différence de diffuseurs de fake news qui le font sciemment pour déstabiliser ou autre, dès le lendemain, tout a été détricoté. Le journal a expliqué sa démarche, s'est excusé, mais c'est assez emblématique de la difficulté aujourd'hui du journalisme, effectivement, d'aller vite, mais on ne sacrifie pas non plus la qualité parce que le journalisme de demain est celui qui sera fiable dans un monde, un océan de choses inutiles ou non vérifiées.
La qualité doit primer sur la rapidité. C'est également ce que pense Laurent Bigot, directeur de l'école de journalisme de Tours.
Aujourd'hui, de toute façon, tout le monde peut aller vite. Donc, le vrai critère de différenciation, ça devrait pas être ça. Ça devrait se dire aujourd'hui, qui va ramener l'information la plus fiable ? On a d'abord cru aux modèles qui ont été vendus par les plateformes, qui était celui de la gratuité totale de ce qui se passe sur le web, et de se dire que finalement, plus on générait du clic, plus on était rémunéré, et que c'était ça le modèle économique du web. Ça a été un piège dans lequel tout le monde est tombé, y compris les plus grands médias. Si on arrive à bien faire ça, bien faire son métier avec de l'information vérifiée, normalement, on arrive à se distinguer à un moment donné.
De nombreux médias sont ainsi revenus aux abonnements payants, comme Le Monde ou Ouest France. L'information a retrouvé sa valeur. Dans le même temps, certaines rédactions ont fait évoluer leurs pratiques afin de privilégier la qualité.
Vous aurez noté le slogan actuel de France Info. C'est pas juste l'info, c'est l'info juste. Beaucoup de médias font juste l'info. Mais France Info n'a pas toujours été sur cette longueur d'onde-là. Il l'est maintenant, après des années de travail, en se disant on va reprendre en main nos flux d'informations et en y intercalant du travail de vérification qu'on avait enlevé. Aujourd'hui, France Info, quand il se passe quelque chose à Rennes, il ne prend pas la dépêche AFP pour argent comptant sur un événement qui se passe à Rennes. Il contacte France Bleu pour avoir à l'éclairage.
Vous êtes toujours sur Canal B, vous écoutez l'info à l'épreuve du détecteur de mensonges, un épisode de la série documentaire En quête de sens.
Les codes du fact-checking peuvent être repris par les institutions et les gouvernements dans leur communication. Mais attention à ne pas se faire avoir. Vincent Couronne est aussi le fondateur du site européen de legal checking, Les Surligneurs, qui lutte contre la désinformation dans le domaine du droit. Il s'attelle à vérifier la véracité juridique des déclarations des personnalités politiques. Il insiste sur la différence entre communication et journalisme.
Pour moi, tout ce qui n'est pas certifié par un code déontologique, tout ce qui n'est pas de la presse indépendante, ça n'est pas du fact-checking. Donc, ce que fait le gouvernement quand ils disent qu'ils font du fact-checking sur le coronavirus, ce que fait le parti Renaissance avec sa cellule de fact-checking aussi en interne, etc., ce que fait la Commission européenne avec les décodeurs de l'Europe, ou alors avec un autre service qui s'appelle EU versus Disinfo, qui est en fait de la lutte contre la désinformation venue de l'Est, donc essentiellement de la Russie. Ça, c'est en fait un service qui vient de la Commission européenne.
Ce sont de bonnes initiatives, mais ce n'est pas du fact-checking.
Le fact-checking, c'est une pratique journalistique, indépendante et transparente. Si on n'a pas ça, c'est pas du fact-checking. Ça répond à un agenda politique. Alors, c'est aussi, dans une certaine mesure, une utilisation de l'information qui peut être de la manipulation aussi de l'information. Le gouvernement, quand il diffuse leurs propres informations, c'est une information qui est forcément orientée.
Il n'y a pas que les journalistes qui sont compétents. Les citoyens ont aussi leur rôle à jouer dans la vérification d'informations. L'AFP l'a bien compris, comme nous l'indique Émilie Béraud, fact-checkeuse pour AFP Factuel.
On a un partenariat aussi avec WhatsApp qui nous permet de répondre directement en fait aux sollicitations des lecteurs qui repèrent eux-mêmes des images ou des messages qui leur semblent trompeurs et qui nous les soumettent. Donc c'est un bon moyen de resserrer la relation entre journalistes et citoyens qui est dans le doute, s'est méfié d'un message ou d'une image et qui le soumet à un vérificateur.
Les réseaux sociaux permettent aux citoyens de participer à ce processus de vérification des faits. Pour être plus proche du public, la journaliste Aude Favre s'est lancée sur YouTube avec sa chaîne What the Fake.
Allô ?
Oui, allô Aude ?
Oui, ça va bien ?
Oui, et toi ?
Ouais, cool, écoute.
En 2015, elle est journaliste chez Première Ligne, voisine de couloir des bureaux de Charlie Hebdo. Les attentats de début janvier marquent un tournant. De nombreuses théories conspirationnistes accusant ses collègues d'avoir aidé les terroristes sont relayées sur les réseaux.
C'est là que j'ai créé ma chaîne YouTube, dans laquelle je démonte, on va dire, un certain nombre de fausses informations. J'essaie de dialoguer avec les gens. L'idée, c'est vraiment d'œuvrer sur le lien entre les journalistes et les citoyens. Et puis ça, je suis allée encore un peu plus loin là-dedans, du coup, en créant une énorme rédaction collaborative. Ça, c'était pendant le premier confinement.
Plus d'un millier d'Européennes et d'Européens ont rejoint la rédaction collaborative que j'ai créée. Parmi eux, des assistants maternels, des secouristes, des enseignantes. Tous ont décidé de se joindre à moi pour démêler le vrai du faux sur les sujets qui les préoccupent directement. Bienvenue dans Citizen Facts.
Citizen Fact, c'est le nom de la série Code à réaliser pour Arte. Pour chacun des 6 épisodes, la journaliste et sa rédac collective enquêtent sur un sujet différent. Elle nous explique la genèse du projet.
C'est parce que j'ai commencé à faire ces lives là pendant le premier confinement. Ça s'appelait des What the Fake Academy. Et donc dans les commentaires, il y a des gens qui ont, il me semble, commencé à dire « Oui, mais pourquoi on serait pas une rédac collaborative ? Attends, ce serait trop bien, machin. » Et j'ai fait « Bah oui, ok, vas-y. » Il y a énormément de gens qui sont dégoûtés de la désinformation et qui ont envie d'agir d'une manière ou d'une autre en fait.
Le groupe s'est rapidement agrandi et compte aujourd'hui 1600 membres. Chacun apporte sa pierre à l'édifice et c'est toute une organisation. Le réseau Discord leur a bien simplifié la tâche.
Globalement, une fois qu'on a identifié quelques sujets vraiment, ok, vas-y, on va traiter ça d'enquête. Donc par exemple, notre toute première enquête, elle est d'ailleurs sur Arte TV, là du coup, et sur la chaîne YouTube, c'était sur un monsieur complètement délirant qui s'appelle Jean-Jacques Crèvecoeur. En fait, non seulement il raconte n'importe quoi sur la Covid et tout, mais en plus il tient des discours dangereux. J'ai vu le truc qui pouvait vraiment faire l'objet d'un vrai petit doc, quoi, en tout cas d'un gros sujet. Et donc là, on a commencé à créer des fils. Donc t'avais Jean-Jacques Crèvecoeur, genre son parcours. Et puis après, en dessous, t'as Jean-Jacques Crèvecoeur, le business, parce que son business, c'est des formations en mode développement personnel. Mais d'ailleurs, pas que. Hein, justement, il raconte n'importe quoi sur la santé. Ceux qui veulent essayer d'enquêter sur tel ou tel aspect, en fait, de Jean-Jacques Crèvecoeur, vous allez dans le fil dédié, etc., etc.
Mais pas toujours facile de se mettre d'accord.
Des fois, on a eu un peu des petits malentendus. C'est vrai que du coup, c'est comme si tu te retrouvais rédacteur en chef de dizaines, voire de centaines de personnes qui, en plus, ne sont pas journalistes. Il y a des sujets qui ont été proposés, par exemple, mais qui n'ont pas l'envergure d'être un doc sur Arte. Mais la plupart des reportages dans Citizen Facts sont des reportages qui ont quand même émergé hein, des gens de la rédaction. À la base, la communauté première qui est venue dans ce Discord, c'est quand même des gens qui suivaient ma chaîne, qui aiment bien globalement ce que je fais, qui aiment le fact-checking et tout. Et donc, les gens qui, sans être journalistes, sont quand même assez bons dans la vérification de l'information.
On pourrait se demander, mais qui vérifie l'information dans cette rédaction ?
Alors, globalement, c'est moi. Hein. Moi, j'ai une super responsabilité éditoriale dans le fait que, évidemment, il faut qu'on sorte des choses qui sont valides et qui sont vérifiées, etc.
Nous pouvons aussi vérifier l'information dans notre quotidien. Nous avons demandé à Vincent Couronne, comment faire ?
Il y a deux choses que vous devez faire. La première, c'est à chaque fois que vous lisez une information ou à chaque fois que vous recevez une information, demandez-vous si vous êtes objectif dans la façon dont vous traitez cette information-là. Ou est-ce qu'il n'y a pas un biais du fait de votre éducation, de votre histoire, du contexte du moment, de votre caractère, de votre entourage familial, d'amis, qui fait que cette information-là, vous allez la traiter d'une certaine manière ?
Ce n'est pas facile à faire, car nous ne sommes pas conscients de la plupart des biais, mais il faut essayer. Il y a ensuite une deuxième chose à faire.
C'est quand vous recevez une information, quand vous choisissez des médias, des comptes sur les réseaux sociaux que vous voulez suivre, posez-vous deux questions. La première, c'est est-ce que ce compte ou est-ce que ce média est un vrai média ? Est-ce que les gens qui écrivent, est-ce qu'ils ont une expertise particulière ? Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une critique externe. Et puis la deuxième chose, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est la critique interne. C'est-à-dire tout ce qu'il publie, est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est sourcé, est-ce que c'est contradictoire, c'est-à-dire est-ce qu'ils apportent le pour et le contre en analysant, etc. Donc voilà, on peut se poser déjà ces premières questions et à partir de là, eh bien essayer de faire une première sélection de médias, de sources, de comptes, etc. qu'on peut suivre.
Cette technique, Vincent Couronne l'enseigne aux étudiants lors de ses cours, comme par exemple à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Aude Favre fait de même dans les collèges avec son association FECOF. Il est important de sensibiliser dès le plus jeune âge à ces questions-là et leur faire comprendre qu'il ne faut pas croire tout ce qu'il y a sur Internet.
Je leur ai donné une petite méthode pour fact-checker, qui est une méthode que j'ai appelée la méthode STAR. C'est S, c'est les sources. C, c'est le travail. Donc, il faut analyser s'il y a des sources, analyser s'il y a du travail d'enquête, donc du contradictoire, vraiment de la recherche, quoi. A, c'est l'auteur et R, c'est la rigueur. Et donc, je leur donne cette petite méthode-là. Et puis après, en fait, ils nous racontent ce qu'ils ont vu et puis on essaye de voir ensemble, on fact-check ensemble. En fait.
Les sujets fact-checkés avec les élèves sont très variés.
Je me suis retrouvée à fact-checker le mégalodon qui existerait toujours apparemment, de l'espèce de requin là, préhistorique, etc. Donc on a fact-checké ça, on a fact-checké est-ce que c'est vrai, madame, qu'on peut se télétransporter. Parce qu'apparemment, il y a une machine de télétransportation, que Apple aurait créé une machine de télétransportation et tout. C'est vrai qu'en fait, si tu tapes ça, tu vois, il y a un espèce de visuel un peu délirant. Enfin bon, bref, voilà. On a fact-checké le fait que les puffs, je connaissais même pas ce terme, hein, c'est des trucs pour fumer, là. Est-ce que c'est vrai qu'en dénonçant les gens qui fument à partir de l'année prochaine, parce que ça va être interdit, on va pouvoir gagner 600 euros à chaque fois?
Vous êtes toujours sur Canal B, vous écoutez l'info à l'épreuve du détecteur de mensonges, un épisode de la série documentaire Enquête de sens.
La pratique spécifique du fact-checking a évolué, s'éloignant de sa forme première, comme le remarque Vincent Couronne.
On voit pas mal de cellules de fact-checking qui font moins de fact-checking, je pense aux décodeurs du monde par exemple. Si on lit aujourd'hui les décodeurs du monde, qui étaient vraiment les pionniers en termes de fact-checking au départ, aujourd'hui, il y a très peu d'articles de pur fact-checking. C'est des analyses statistiques, des reconstitutions, mais c'est plus à proprement parler systématiquement du fact-checking. C'est-à-dire, on vérifie un propos ou un post qui est faux ou dont la vérité est altérée et on va rétablir les faits.
En réalité, les fact-checkers apportent leur savoir-faire à toute la rédaction.
Beaucoup des fact-checkers qui travaillaient dans cette cellule des décodeurs du Monde, aujourd'hui travaillent soit toujours au Monde, mais dans d'autres services, services politiques, ou alors dans d'autres médias comme journalistes politiques, sociales, santé, etc. Et leur pratique de fact-checker, leur éducation en tant que fact-checker, leur expérience, eh bien aujourd'hui, bah forcément, elle leur apporte dans leur métier aujourd'hui en tant que journaliste non fact-checker en quelque sorte. Et donc je pense que le fact-checking aussi est une sorte d'école complémentaire en fait quand on veut être journaliste aujourd'hui.
Le fact-checking est aujourd'hui confronté à de nombreux défis. Pour y faire face, il n'aura pas d'autre choix que de se réinventer. Et pourquoi pas un changement de format ? C'est l'idée que propose Émilie Béraud, journaliste à l'AFP Factuel.
Peut-être en termes d'outils, il y a sûrement d'autres choses à faire pour faire de l'investigation peut-être un peu plus poussée et peut-être aller sur du long format. Faire des enquêtes visuelles plus poussées, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à partir des outils du fact-checking, un peu comme ce que fait déjà Bellingcat.
Bellingcat, c'est un réseau indépendant d'enquêteurs créé en 2014. Il utilise toutes les données disponibles en ligne pour mener ses investigations et notamment documenter les crimes de guerre commis en Ukraine. Le long format est une possibilité, mais on peut difficilement prévoir comment le fact-checking va évoluer.
Ça dépend tellement en fait des plateformes et on voit que les plateformes bougent énormément entre l'année dernière et cette année. Par exemple, Twitter qui est devenu X, on voit beaucoup de changements sur la plateforme, il y a moins de modération, il y a plus d'images violentes. Donc ça a déjà changé pas mal la donne pour nous. Donc c'est vrai que ça dépend pas mal de notre terrain qui est les réseaux sociaux.
Pour Laurent Bigot, auteur du livre Fact-checking vs Fake News, les cellules de fact-checking sont vouées à disparaître pour se fondre dans l'ensemble de la rédaction.
Si je me fie au cheminement de la rédaction de France Info, je pense que l'on devrait évoluer vers une pratique intégrée du journalisme de vérification, c'est-à-dire d'avoir de la vérification dans l'ensemble du contenu des médias, avec une vraie priorité donnée au travail de vérification. Parce que ça sera probablement la seule manière de se distinguer du reste de l'information. Ça sera la seule manière de montrer la différence entre un travail journalistique professionnel sur l'information et simplement la diffusion d'informations.
Face à cela, il propose une solution.
Et j'ose croire que assez prochainement, on verra apparaître des labels ou signes distinctifs qui permettront d'identifier ce qu'est un média professionnel journalistique et ce qui n'en est pas un. Si la différence ne se fait pas par un fort travail sur la qualité qui donne lieu à un label en échange, je ne vois pas vraiment comment des médias journalistiques pourront survivre.
La rapidité à laquelle se diffuse l'information n'est pas le seul défi auquel le fact-checking doit faire face. Vincent Couronne en est bien conscient.
Il y a un défi particulier, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il est possible déjà, et évidemment demain ça sera encore plus mainstream, comme pratique, de fabriquer des images, de fabriquer des vidéos, de faire des deepfakes, de fabriquer des textes, des sons, etc., et de les diffuser massivement sur Internet. Tout ça va perturber, de manière dont on a peine à encore imaginer les conséquences et l'ampleur, de manière extrêmement importante, tout notre environnement informationnel. Parce que on peut estimer que, dans un temps proche, la majorité de ce qui sera produit en ligne ne sera plus produit par les êtres humains. Et donc, pour être produit en masse, en grand nombre, et sur des sujets extrêmement variés, dans un temps quasiment instantané. Et donc ça va poser un défi absolument gigantesque à la lutte contre la désinformation, en général, au fact-checking en particulier et au legal-checking surtout.
Pour lui, c'est aux institutions d'apporter une réponse.
Donc, à mon sens, il y a une bataille en termes de politique publique où il faut que l'Europe, là, vraiment, prenne la mesure de ce qui est en train de se passer là-dessus. Alors, il y a un projet de réglementation européenne sur l'intelligence artificielle qui, à mon sens, prend la bonne direction, mais ne va pas assez loin. Mais il faut aussi que, du côté des lecteurs, des citoyens, il y ait une éducation vraiment qui soit faite pour essayer de déjouer le plus possible tous ces pièges.
Le fact-checking va donc bien plus loin que du simple journalisme. C'est un véritable enjeu sociétal et politique, comme le rappelle Aude Favre.
Je ne sais pas en fait comment on peut faire vivre une démocratie de manière à peu près normale si les gens ne sont pas éclairés. Pour voter, c'est pas mal de savoir de quoi on parle, d'avoir des bonnes informations. Donc en fait, je trouve que c'est vraiment agir sur la démocratie, quoi.
Détecter et réfuter les mensonges, c'est donc ce à quoi s'attelle le fact-checking. Cette pratique garantit un journalisme de qualité, essentiel pour le bon fonctionnement de la société. Cette quête de véracité est aussi un moyen de retrouver du sens dans le flot d'informations qui inonde notre quotidien.
C'était l'info à l'épreuve du détecteur de mensonges, un épisode de la série documentaire En quête de sens, réalisé par Anna Audegon et Daphné Brionne. Merci à toutes les personnes qui ont pris du temps pour nous parler, sans qui cet épisode n'aurait pu voir le jour.
Dans notre générique, vous avez pu reconnaître des extraits de l'émission Vrai ou Faux de France Info, de Touche pas à mon poste, du film Brice de Nice, de la série Citizen Fact, ou encore du documentaire La fabrique du mensonge.
Il y avait aussi des extraits de discours d'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Donald Trump et Marine Le Pen.
Vous avez également pu entendre des extraits de journaux d'information du samedi 12 octobre 2019 de RTL, TF1, France 2 et BFM TV.
La musique qui composait cet épisode était Your Eye de Agar Agar. Il y avait aussi un extrait de Scoop de Louis Chédid.
Demain, Camille Debeau et Adriana Dagba parleront de l'indépendance des journalistes dans Silence sa presse. Bonne journée sur Canal B.